Ignition.
Bravo, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Ça n'a pas été fait d'une façon, je peux le refaire. Dirais, volontaire. C'est trop tard. C'est trop tard, c'est lancé. Bienvenue sur l'antenne de Graphite. C'est du n'importe quoi cette émission. Je ne sais pas ce qui se passe.
Ça commence dans la bonne humeur en tout cas.
Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. L'actualité scientifique, on en parle depuis plusieurs années dans cette émission. Tous les samedis à midi, tous les mardis matin aussi, j'oublie souvent de parler de la rediffusion le mardi matin à 10h pour ceux qui nous écoutent, parce que l'actualité scientifique ne s'arrête pas. Et depuis 2 ans, on a un peu l'impression que le Covid cache un petit peu tout le reste, et on est un petit peu là pour parler de tout le reste dans cette émission, et vous verrez qu'on a des sujets un petit peu variés, originaux, pour essayer de nous mettre un petit peu du baume au cœur face à cette émission de la semaine dernière qui était quand même un petit peu plus catastrophique. Mais bon, il y a des moments comme ça, c'est pas nous qui choisissons l'actualité scientifique, nous sommes déjà le 5 février,
ça cette passe année passe à cette vitesse, vite.
C'est effrayant.
Et du coup quand même, bonjour, parce que c'est vrai que...
Oui pardon Carole, mais tu sais que je suis tellement habitué à t'avoir dans ce studio depuis maintenant, ça fait la troisième semaine.
Ben je sais, on se réhabitue tellement vite, hein. Moi je me sens comme chez moi.
Mais c'est comme un vieux couple, tu sais, on se dit même plus bonjour quand on se voit, c'est... Bientôt, on va se faire des reproches. Tu vas voir. Attention, on va basculer.
Attention,
Carole. Carole est bien sûr avec nous sur l'antenne de Graphite. Tu vas bien, Carole? Je vois que.
Il va très bien. Oui.
Oui, je vois que. Depuis...
J'ai tenté en fait de faire, voilà, pour l'expliquer aux auditeurs, un lancement le lancement d'une fusée. Et évidemment, tu as démarré l'émission à ce moment-là, bien sûr.
Parce que je trouvais qu'il n'y a pas besoin d'attendre. Voilà, ça nous fait plaisir. Lançons-nous. Nous sommes le 5 février en 1894. Jean-Aimé Le Roy. Alors c'est un nom qui nous dit rien du tout.
C'est ce que j'allais
pourtant,
dire.
Eh ben, il présente le premier appareil de projection cinématographique à Manhattan, à New York.
Ah.
Ben oui, eh ben, on ne connaît pas son nom.
Non,
en 1894, c'était ça, 5 février. Et puis en 2012, donc c'est beaucoup plus proche que nous, j'avais vu cette information. Après plus de 20 ans de forage, nous sommes maintenant en 2012, ça a donc commencé en 1992, il y a une tête de forage qui pénètre dans l'eau liquide du lac sous-glaciaire Vostok et on est à plus de 3,7 km de profondeur. C'est-à-dire que pendant 20 ans, on a creusé plus de 3 km. On n'a que ça à faire. Et on a trouvé quoi? De l'eau liquide.
Ah.
J'ai l'impression, en fait, plus rien ne te surprend. Je te dis, vieux couple, je te l'ai dit, Carole, vieux couple.
Tu n'arrives plus à me surprendre.
Moi, je trouve cette information fascinante.
Ouais.
Pendant 20 ans, on est en train de forer, et au bout de 20 ans, on trouve de l'eau liquide dans le lac sous-glaciaire Vostok, à plus de 3,7 km.
Non mais c'est fou. Ah non mais c'est, après je ne sais pas, peut-être que c'est moi, mais j'ai des connaissances assez poussées en forage. C'est peut-être pour ça que ça ne m'étonne pas. Mais... Et parfois il faut du temps pour trouver les choses.
Qu'est-ce que c'est que cette information que tu
mets? Oui, je le communique du coup, voilà, publiquement. Oui, en effet. J'ai des connaissances...
Et donc toi, 3,7 km, toi ça ne t'impressionne pas?
Alors si, par contre c'est impressionnant. Mais du coup je comprends qu'il faille du temps pour réussir... Pour réussir à...
Patient, 20 ans pour 3 km. Quoique sur le périph' parisien, des fois, pour faire 3 km, tu ne mets
après,
pas 20
j'imagine...
ans.
Non. J'imagine qu'il y a eu des interruptions, j'imagine qu'il y avait des blocages, qu'il y avait peut-être des couches de souterrain aussi qui étaient beaucoup plus difficiles à forer que d'autres. Enfin, il y a dû avoir plein de rebondissements dans ces recherches.
Ah bah, je l'espère, parce que pour faire 3 km en 20 ans...
Oui, mais c'est 3 km
en profondeur. Oui, j'ai compris. C'est pas le tunnel sous la Manche, mais bon, il n'empêche. Le 5 février 1770, naît Alexandre Brongniart, scientifique français, connu principalement pour ses travaux de minéralogie. On parle très peu de minéralogie.
Oui, c'est vrai.
Pour deux raisons. Parce que premièrement, ça ne m'emballe pas du tout. Ça n'a jamais été une science qui m'intéressait.
Et là, par contre, je ne suis pas spécialiste. Voilà. C'est pour ça que je ne rebondis pas sur les sujets de minéralogie.
Et deuxièmement, je trouve que c'est toujours difficile de parler de ces sujets-là à la radio, en fait. Donc c'est pour ça qu'on aborde très peu la minéralogie. Il n'empêche qu'Alexandre Brongniart, il est le fondateur de la céramique moderne et il a donné une classification des données des objets céramiques. Pardon, il a été élu membre de l'Académie des sciences en 1815. Et donc il est né un 5 février 1770. Décès le 5 février 1845, donc dans le 19e siècle, de Robert Aglaé Cauchois, opticien français fabricant de lunettes astronomiques. Et donc, il a travaillé essentiellement dans l'astronomie, bien sûr, mais il a aussi inventé des jumelles de théâtre qui possèdent plusieurs grossissements. Nous sommes au 19e siècle, donc effectivement, c'était un outil un petit peu de distinction assez intéressant. Il est mort à 5 février 1845 en France, dans la ville de Deuil. Et je trouve qu'au moins, la boucle est bouclée. T'es mort où ? Je suis mort à Deuil, comme ça, c'est fait. Et c'était donc l'éphéméride de ce 5 février où il n'y a pas grand-chose. Il y a des moments où c'est un peu pauvrouné.
C'est plus calme. Mais c'est bien, on commence du coup calmement le début d'année. Alors par contre, pas au niveau de l'actualité scientifique. Et tu nous avais fait un teasing incroyable la semaine dernière pour ce premier article.
Bah, parce que y a des moments où on se dit, qu'est-ce que l'on fait ? On nous parle tout le temps de recyclage. Et en fait, il y a une start-up de la région de Bordeaux qui a dit, mais si on recyclait l'urine ? Il faut quand même oser le faire. Et c'est
beaucoup d'aventuriers, oui, je parle de ce que je vois en ce moment à la télé, j'allais dire beaucoup d'aventuriers ont déjà tenté l'expérience.
Oui, alors lui, c'est pour une application un peu plus précise.
D'accord,
c'est,
laquelle ?
Il s'appelle Mickaël. Je te le dis. Mais qu'est-ce que tu es impatient ?
Mais j'ai hâte de savoir. Ça fait une semaine que j'attends.
Et bah, t'attendras encore 2 minutes. Le temps déjà d'évoquer le prénom, le nom de ce responsable de cette start-up qui s'appelle la start-up 2P Organics. Et le responsable est Mickaël Ross. Et il avait évoqué, déjà, on l'avait interviewé il y a 2 ans. Alors, je cite, je mets des guillemets, hein, parce que c'est un petit peu ce qu'il a dit. « J'en avais assez de ce monde de merde. J'avais envie de donner du sens à ma vie.
Ah oui ?
En faisant mon potager, j'ai commencé à fabriquer mes propres engrais et de fil en aiguille, j'ai eu l'idée de recycler l'urine.
Mmh. »
L'idée vient de là.
D'accord.
Alors, du coup, c'est une idée un peu simple, parce que on se demande de quoi a besoin une plante. D'azote, de phosphore, de potassium et d'une multitude d'oligo-éléments. Ça peut être du cuivre, du fer, du magnésium, du manganèse, du soufre, du zinc. Et ce sont les micro-organismes du sol, essentiellement des bactéries, qui vont mettre ces éléments à disposition des plantes en dégradant la matière organique. Et donc, la plante, elle va assimiler tout cela par les racines, bien évidemment. Et ça permet aussi aux micro-organismes présents, donc ces bactéries, de recevoir en retour beaucoup d'éléments nutritifs, notamment comme les sucres. Donc, une espèce de symbiose qui se met en place. Tout le monde est content, tout le monde trouve sa place. Et l'idée donc de Mickaël Ross, qui est une idée breveté, c'est d'utiliser l'urine comme milieu de culture de bactéries à vocation agricole. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il suffit de chauffer l'urine avec une source de sucre. Puis, j'ai l'impression de faire une recette de cuisine.
C'est ce que j'allais dire, on dirait la recette de cuisine.
Que c'est la chandeleur, hein, je te donne la pâte à crêpes en saucement. Hein.
Bon appétit, bien sûr, pour ceux qui nous écoutent là, lors du repas.
Il suffit de chauffer l'urine avec une source de sucre, puis d'ajouter des souches de bactéries. En quelques jours, on obtient le produit fini, c'est une espèce de liquide concentré en bactéries qu'on peut épandre directement sur le sol. Alors ce produit n'est pas un engrais à proprement parler, hein, parce qu'il n'apporte pas des éléments nutritifs. C'est un genre de fertilisant, un produit microbien que l'on appelle un biostimulant. Grâce aux bactéries donc qu'il y a dans ce produit, eh bien, il aide les plantes à pouvoir assimiler les nutriments. Alors, il en existe beaucoup. Leur qualité dépend justement des bactéries que l'on a à l'intérieur. Et ce qu'ils souhaitent, c'est d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché qu'ils ont sollicité en France. Ce qui lui permettra justement à Mickaël Ross d'avoir une garantie. Nous devrions commercialiser notre premier biostimulant pour l'assimilation du phosphore cette année. Pour l'agriculture, ce sera une alternative aux engrais phosphatés produits à partir d'exploitations minières au Maroc et en Russie. Et on aura ensuite un biostimulant qui va permettre la fertilisation du soja et d'autres légumineuses également. Et selon les premières évaluations menées par la plateforme d'essais agronomiques Astria, eh bien ce produit est tout aussi efficace et bien plus compétitif que les produits actuellement disponibles sur le marché. Hein, c'est ce qu'explique donc Mickaël Ross. Nous préparons également des produits à vocation fongicide, donc c'est l'idée de détruire les champignons, ou insecticide, donc pour agir contre les insectes, qui pourront donc remplacer les pesticides. L'idée est d'adapter le produit aux besoins locaux du sol, en enrichissant l'urine avec des bactéries qui seront donc les mieux appropriées. Alors, qu'est-ce que l'on pense des résidus médicamenteux qu'il peut y avoir dans l'urine ? Notre solution est dans tous les cas moins polluante que les technologies coûteuses de stations d'épuration, dit-il, qui rejettent l'eau dans les rivières alors que le sol est un milieu filtrant naturel. Par ailleurs, la collecte séparative d'urine s'imposera si on veut éliminer totalement ces polluants. Donc, autant la valoriser, nous dit-il. Alors, le modèle de développement de cette start-up qui s'appelle, je rappelle, 2P Organics, elle est basée sur des partenariats locaux avec des collectivités, des collecteurs, on ne demande pas ce que c'est que ces collecteurs, et des coopératives dans un rayon de 100 km. Autour des unités de transformation, bien sûr. Et la première est installée à Loupiac de la Réole, c'est en Gironde, et elle pourra produire 2500 litres par jour.
Waouh !
Ah ben, on fait appel aux contributions pour avoir 2500 litres. Une seconde est en projet près de Poitiers. Et donc, côté collecte, cela suppose de remplacer les urinoirs classiques à eau par des urinoirs secs reliés à une cuve de récupération.
D'accord.
Et donc, du coup, la démarche, elle semble convaincre, hein, parce qu'il y a des partenariats qui se multiplient, nous dit-on, avec notamment la région de Bordeaux, ça fonctionne bien. Il y a également les départements et les régions qui souhaiteraient équiper les collèges et les lycées.
Ah oui.
Il y a Vinci qui également pourrait faire cela sur les aires d'autoroute. Et comme on parle de la région de Poitiers, le Futuroscope aussi pourrait s'y mettre. Donc, les collectivités locales, territoriales sont également intéressés parce que 1 mètre cube d'urine collectée, c'est 10 mètres cubes d'effluents au moins traités dans les stations d'épuration.
Oui, donc il y a un véritable intérêt.
Donc il y a un véritable intérêt. Mais ce n'est pas que anecdotique, hein, cette annonce. Hein. Tu rigolais tout à l'heure.
Oui.
Mais non, mais jamais, jamais, jamais.
Mais non, je ne me moque pas.
Alors, le modèle économique, parce que, évidemment, ça c'est toujours intéressant, surtout quand c'est une start-up. Alors, selon les fonctionnalités, nos produits coûteront 4 à 5 fois moins cher que les produits actuels, qui sont les engrais, qui sont des produits à base de microbes également, pour les mêmes effets bénéfiques, mais sans risque de fluctuation. L'urine est une matière première, inépuisable et universelle. C'est vrai que c'est beau slogan. Alors, les demandes affluent de plus de 60 pays, nous dit-on dans cet article, dans ce communiqué de presse. La start-up annonce une filiale en Belgique cette année, déjà. Des discussions avec les gouvernements du Bénin et du Kenya. Et pour finir, Michael Ross explique « Notre solution est particulièrement adaptée pour l'Afrique. Il suffit d'installer des toilettes sèches, pas besoin de récupération d'eau, pas besoin d'assainissement et un engrais à bas coût à la clé. » Et donc, cette start-up a reçu de nombreux prix d'innovation et prépare une grosse levée de fonds en 2022. Ben, on souhaite que ça puisse réussir, mais voilà. Une start-up qui produit des fertilisants à base d'urine.
On suivra ça, peut-être qu'on aura des nouvelles.
Dans les
années qui viennent, oui, tout à fait. Mais écoute, très intéressant. Non,
je trouve que le titre, évidemment, est toujours accroche, bien sûr, mais derrière, il y a quelque chose d'assez intéressant qui peut prendre une ampleur aussi avec des impacts économiques, environnementaux qu'on ne soupçonnait pas au départ.
Et sachant que tu en parlais, vu qu'on est donc dans la... Alors, je vais dire une bêtise, mais l'année...
Jamais.
International sur tout ce qui va être développement durable, hein, même si.
Alors, c'est des sciences fondamentales. Je ne sais pas si on est vraiment dans la science fondamentale pour
le développement
durable.
Là, on est sur de l'application.
On est sur de l'application, mais on est toujours. Enfin, tu as raison de mettre ça en avant. C'est toujours le développement durable va être un indicateur qu'on doit retrouver partout maintenant.
Et c'est surtout qu'en fait, on voit que maintenant, tous les projets sont dans une optique de réutiliser. Donc là, évidemment, on se dit réutiliser l'urine, ça nous fait sourire au départ. Mais en fait, c'est comment est-ce qu'on va réutiliser tout ce qu'on a, à tous les niveaux.
Et c'est toute la solution qu'il va falloir mettre en place, oui.
Oui, donc, en tout cas, j'allais dire, je ne sais pas comment moi je vais enchaîner.
Parfois, il n'y a pas de transition possible.
Voilà,
en fait.
C'est ça. Avec un sujet qui a, en effet, fait l'actualité récemment, du coup, au début de cette année 2022. Et là, on est sur de l'archéologie. Donc moi, j'aime bien ces retours en arrière. Là, on a été dans le futur et on revient du coup à des millénaires en arrière, puisque en fait, il s'agit de l'histoire des sceptres de Maïkop, qui finalement aurait peut-être cacherait en fait un autre usage, qui finalement seraient les premières pailles de l'humanité. Alors, je vais expliquer ça en détail parce que là, il y a beaucoup de choses à dire du coup sur ce sujet.
Des pailles en bambou ?
Alors, justement, ils étaient moins sur ce genre de matériaux. Tu vas voir, je vais tout t'expliquer. C'est un article qui a été relayé par pas mal de sites internet, etc. Mais là, il s'agit du coup de ce qui a été détaillé dans Science et Avenir, donc au mois de janvier. En fait, à la fin du 19e siècle, il y a toute une série de tubes en or et en argent. Donc c'est pour ça, là, on est sur des matériaux, j'allais dire, haut de gamme, luxueux, qui ont été retrouvés dans une célèbre tombe du Caucase. Leur fonction demeurait en fait jusqu'alors inconnue, mais on viendrait peut-être de comprendre justement à quels usages elles auraient été destinées. Alors, dans les vitrines en fait du musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, bon, j'ai pas eu la chance de visiter ce musée, mais j'imagine que c'est très beau, eh bien, reposent depuis plus d'un siècle d'étranges tiges d'or et d'argent de plus d'un mètre de long. Elles ont été retrouvées dans le Kourgan de Maïkop, l'une des plus célèbres tombes d'élite de l'âge du bronze caucasien. En fait, les archéologues, sans trop de conviction à l'époque, ont dit « ce sont des sceptres ». Mais bon, on n'était pas certain en fait de l'usage, ou peut-être les supports d'un dais. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, peut-être pour soutenir quelque chose. Donc, après une analyse approfondie, une équipe russe, et là c'est donc récent, elle assure que finalement la fonction de ces tubes, ce serait en fait de servir de paille. Et dans ce cas, ça veut dire que ces pailles, eh bien, elles auraient servi il y a environ 5500 ans, c'est là où c'est vertigineux, okay, à boire de la bière ou peut-être d'autres liquides dans une jarre commune lors de banquets. On va détailler ça un peu plus.
C'est pas du tout Covid compatible, ça.
C'est vrai, mais à l'époque, ils n'avaient pas ces problématiques de Covid. Et donc, si c'est bien le cas, elles deviendraient les plus anciens exemples de paille jamais recensés. Et donc, cette réévaluation, finalement, de l'usage de ces objets-là, ça a fait les gros titres d'un article publié là en janvier dans la revue Antiquity. Je me dis, c'est classe de publier dans la revue qui s'appelle Antiquité, voilà, en français. Alors, en fait, ces tubes, ils sont au nombre de 8, aux extrémités effilées. Alors, pareil, on peut trouver pas mal d'iconographies sur Internet. Et ils ont, à la base, été découverts par l'archéologue orientaliste Nikolai Veselovski en 1897. Donc là, on remonte au 19e siècle, dans le riche tumulus qui donna son nom à la culture de Maïkop. Cette dernière se développa aux alentours de 4000 avant Jésus-Christ, dans la région de la ville russe du même nom, non loin de la mer Noire et de l'actuelle frontière avec la Géorgie. Elle subsista jusqu'à l'âge de bronze ancien, c'est-à-dire entre 3700 et 3000 avant Jésus-Christ environ. Et cette culture, en fait, elle se distinguait par son abondance, inhabituelle pour cette époque précoce, en objets luxueux, de bronze, d'or et d'argent, qu'on a justement retrouvés dans les Kourganes. Alors là, je réexplique quand même, c'est quoi les cours, Kourgan, c'est un terme d'origine tartare, je le prononce d'ailleurs peut-être pas correctement, qui en fait est en usage dans les steppes russes, le Caucase et les régions avoisinantes, et qui va désigner un tertre artificiel ou un tumulus. Donc je pense que tu vois à quoi ça ressemble, ce genre d'édifice, entre guillemets, qui recouvre une ou plusieurs sépultures. On en trouve de nombreux au nord de la mer Noire, bien qu'ils soient présents dans toute l'Europe de l'Est. Attribués à des populations qui vivaient dans cette région dès le néolithique, ils ont livré de grands nombres d'objets, donc en or, en argent, ce qui a encouragé, en fait, il y a un siècle, une sorte de chasse au trésor de l'archéologie, en fait, qui était balbutiante, mais bon, du coup, appâtée quelque part par ce qui était découvert à l'époque, il y a eu pas mal de recherches. Les pailles qu'on a retrouvées, elle faisait partie de la centaine d'offrandes déposées dans la tombe de 3 individus, des adultes en fait, dont les corps, disposés en position fœtale, reposaient dans une même chambre séparée en 3 sections. Le défunt central, qui semblait occuper la fonction la plus importante, compte tenu du nombre plus élevé de trésors à ses côtés, des riches étoffes dont il était vêtu, eh bien il présentait à sa droite les fameux tubes creux. Plus surprenant encore, ces tubes étaient les seuls objets à reposer près de la dépouille, quand les autres artefacts, comme des céramiques, des coupes en métal, des armes ou encore des outils, étaient cantonnés le long du mur. Donc là, pareil, on voit des reconstitutions, des schémas, comment c'était agencé donc, dans cette fameuse tombe. Et c'est ce qui a amené donc, Veselovski à songer qu'il tenait là une série de sceptres. L'ensemble reste pourtant bien énigmatique, puisque sur les 8 tiges faites de bandes d'argent et d'or roulées, qui mesurent quand même 1 mètre de longueur pour à peine 1 cm de largeur, donc c'est très fin, 5 mm en moyenne pour le trou, et bien 4 d'entre elles sont ornées d'une petite figurine de taureau qui se détache. pareil, on a la représentation des figurines, donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est comme si c'était, on l'a à l'heure actuelle, quand des fois on veut personnaliser des verres ou des pailles, on peut accrocher comme ça un petit animal ou quelque chose. Et bien là, ça ressemble vraiment à ça, évidemment,
c'est ça,
en plus ancien.
C'est ce qu'on voit sur les images.
Tout à fait. Alors, qu'à cela ne tienne, à l'automne 1898, les trésors du Kourgan de Maïkop sont transférés à l'Ermitage. Veselovski les présente à cette époque-là à la famille du tsar et aux invités spéciaux lors de l'exposition annuelle de la Commission archéologique impériale. À ce moment-là, sur la description des objets, il y a écrit 6 sceptres. Mais en fait, quand on regarde la photographie d'époque, il y en avait déjà 8. Donc bon, ils ne savaient pas compter. Et en plus, visiblement, ils s'étaient trompés sur le vrai usage de l'objet. Alors, la suite de l'histoire, c'est qu'en 1914, un autre archéologue du nom de Farmakovsky suggère cette fois-ci qu'il s'agit plutôt de tiges de soutien d'un objet. Un problème majeur de ces interprétations, c'est qu'elles négligent en fait les détails techniques des tubes ou se penchent sur des explications simplistes à leur sujet. Et elles ne répondent pas en fait à une question déjà très simple. Pourquoi des tubes et non des poteaux pleins ? Parce qu'en fait, des tubes, c'est ce qu'on apprend, sont bien plus complexes à fabriquer. Et ça, c'est ce que nous assure Victor Trivonov, spécialiste de l'archéologie du Caucase à l'Institut d'Histoire de la Culture Matérielle de Saint-Pétersbourg. C'est lui, en fait, qui est le premier auteur de l'article que je cite. Donc cet archéologue, il soulève d'autres questions. Pourquoi ces objets ont-ils été regroupés en un ensemble de 8 ? Que signifie leur dépôt dans ce contexte de rituel funéraire ? Si Veselovski et Farmakovsky avaient su que les tubes contenaient des résidus, parce qu'on a regardé après, d'amidon d'orge, logés dans une sorte de filtre interne, peut-être, et du coup, ils auraient eu une réponse différente. Alors, ce que les chercheurs de l'étude récente écrivent, c'est qu'ils émettent l'hypothèse que ces objets étaient des tubes à boire, destinés à siroter un type de boisson, nécessitant une filtration lors de la consommation. Parce qu'en fait, en effet, il y a une histoire de filtration également. Et qu'est-ce qu'on a détecté ? Eh bien, des granules d'amidon d'orge, des phytolithes de céréales et un grain de pollen de tilleul dans un échantillon qui a été donc prélevé dans l'une des 8 pailles. Il précise quand même qu'en fait, on ne peut pas exclure une contamination extérieure depuis tout ce temps et qui soit peut-être survenue lors des fouilles en 1897 ou lorsqu'ensuite les objets ont été conservés au musée de l'Ermitage. Toutefois, leur argumentation, elle ne s'arrête pas là. Victor Trivonov et son équipe rappellent que justement, les plus anciennes représentations de la consommation de bière à l'aide d'une paille remontent au chalcolithique du, alors c'est à peu près du 5e au 4e millénaire avant Jésus-Christ, justement, et elles proviennent d'empreintes de sceaux trouvées sur le site de Gouara 12 dans le nord de l'Irak et de Shoga Mis dans l'ouest de l'Iran. Il souligne également en fait qu'au 3e millénaire avant Jésus-Christ, les scènes de banquets montrant des groupes de personnes sirotant de la bière à travers de longs tubes à partir d'un récipient commun sont devenues populaires dans l'art mésopotamien. Donc leur interprétation, en fait, c'est qu'un goût pour le luxe sumérien et la commensalité régnait peut-être déjà au 4e millénaire avant Jésus-Christ, donc dans le Caucase, donc quand même un millénaire avant. Et c'est là où on voit justement des reconstitutions schématisées, où on voit qu'en fait, ils auraient été autour d'une espèce de grande jarre centrale, avec du coup des pailles, mais des pailles qui sont vraiment très grandes, et disposées peut-être à 8, du coup, autour de cette grande jarre. Ça rappelle les grands mojitos. Je ne sais pas si tu as déjà vu ces mojitos gigantesques.
Carole, tu n'es pas là pour expliquer tes soirées de débauche. Nous sommes dans une émission sérieuse.
Voilà, où des fois, d'ailleurs, il y a des pailles comme ça, on est beaucoup plus de 8. Mais, comme quoi, finalement, rien d'original dans cette...
On n'a rien inventé.
On n'a rien inventé. Alors, ils ont recoupé justement les preuves et ça renforce l'hypothèse. Et ils nous disent qu'en fait, ce qu'on savait, c'est qu'au 5e et 4e millénaire avant Jésus-Christ, la population néolithique du Caucase du Nord, elle cultivait justement le blé et l'orge en abondance. C'était probablement aussi le cas pour la culture Maïkop ultérieure, ce qui laisse penser qu'ils pouvaient à cette époque-là brasser de la bière d'orge aromatisée aux herbes et aux fleurs de tilleul. D'ailleurs, je pense que cet article plairait aussi à PJ, qu'on salue si jamais il nous écoute.
Et ça lui plairait tellement, parce que je lui ai déjà envoyé, en fait, en lui souhaitant la bonne année, parce qu'on pense à lui, évidemment. Et donc, effectivement, je lui dis que c'était assez classe de boire de la bière dans une paille en or.
Oui, exactement. On devrait peut-être le remettre ça au goût du jour. Alors, vu sous cet angle, eh bien, l'ensemble de paille de la tombe de Maïkop pourrait donc être le matériel de festin, quelque part, hein, de 8 individus, mais de haut rang. C'était pas n'importe qui, quand même.
Ah, bah oui.
On parle de paille en or. Qui, en fait... dans l'au-delà, hein, seraient également assis les uns autour des autres pour boire de la bière. C'est pour ça, peut-être, on pensait que c'était important de leur laisser dans la tombe du coup, les fameuses pailles et aussi l'unique grande jarre puisqu'elle a aussi, en fait, été retrouvée dans la tombe. Alors, ce que suggère l'article avec un peu de malice, c'est que donc, la jarre, elle faisait quand même 32 litres. Et ce qui suggérerait, si on divise par le nombre, en fait, de participants, que ça fait quand même 4 litres par personne, ça représente l'équivalent de 7 pintes.
Tu m'étonnes. Ben oui.
Donc, à l'époque, on peut en effet estimer qu'ils avaient le sens de la fête. Peut-être plus que de nos jours.
Sûrement.
Ils tenaient peut-être mieux l'alcool, on ne sait pas.
Oui, ou c'était peut-être... Enfin, même déjà, même si c'est que de l'eau, il faut quand même pouvoir le boire.
Ben oui, tout à fait.
Toi, ça me permettait, ton article, de rebondir sur un article que je voulais évoquer qui date de janvier, donc qui est assez récent, où il y a des fouilles archéologiques qui ont été menées au niveau du site de Ménia. Nous sommes à 200 km au sud du Caire, donc là on est plutôt en Égypte par contre. Il y a deux sarcophages qui ont été découverts, ils contiennent les momies de personnes encore inconnues qui datent de 2500 ans en arrière. Et donc le sarcophage de la femme avait été ouvert par le passé, mais le sarcophage de l'homme demeurait inviolé, ce qui constitue une découverte exceptionnelle. Et en fait, on a découvert une langue en or placée dans la bouche des deux momies. Et il y a trois autres langues qui ont été trouvées à l'extérieur des sarcophages, dont l'une appartenant à un jeune enfant, ainsi qu'on a des amulettes qui ont été trouvées également autour. Il y a des figurines funéraires, des vases qui ont été également placés et dans lesquels on a retrouvé les organes internes des momies, comme à chaque fois. En tout cas, ce qui est un peu étonnant, c'est ces langues en or qui ont été placées. On en a déjà trouvé du côté d'Alexandrie également. Selon les archéologues, le fait de placer des langues en or avec les momies, ça permettrait aux défunts de parler avec Osiris, le dieu de l'au-delà qui siège au tribunal des morts, et ça permet donc à ceux-ci d'accéder ou non à la vie éternelle. Tu as une langue en or, tu as peut-être le droit de parler à Osiris.
C'est beau.
Et donc du coup, voilà, j'ai retrouvé cet article, je voyais que ça faisait un très beau lien avec tes pailles en or, bien évidemment. Et on salue PJ qui nous écoute. On pense à lui à chaque fois qu'on parle de paille en or, bien
de
évidemment,
paille en or.
De bière, parce que le CSA nous écoute comme à chaque fois. On écoute un petit titre et on se retrouve tout de suite après sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. Say
Graphite 94.9 FM.
Et sur graphite.net également, pour ceux qui souhaitent récupérer les podcasts de toutes les émissions, on vient d'écouter The Red Goes Black sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h, Biotine, l'émission d'actualité scientifique, avec Carole aujourd'hui,
oui.
Qui m'accompagne depuis quelques semaines, et c'est très bien. Ça donne un peu de féminité, de douceur, et je dirais aussi de bon sens dans cette émission. Merci d'apporter ce bon sens, Carole.
Je ne sais pas. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être là en ce début d'année. Ça 2022.
Mais oui, c'est vrai que ça nous rappelle la grande époque. Mais tu m'avais abandonné et tu avais abandonné les auditeurs pendant un certain temps. Tu n'en es pas fière, j'espère.
Bien sûr que non. Mais j'attendais que ça de pouvoir revenir.
Et je suis content de te regarder avec mes lunettes, je dirais classiques. Et bientôt, Carole, je te regarderai avec d'autres lunettes.
Ah oui ?
Oui, parce que maintenant, on sait très bien que nous vivons dans une technologie extraordinaire et qui touche également les lentilles de contact. Il y a des lentilles de contact d'une société américaine qui s'appelle Mojo Vision. J'aime bien le oui. Mojo Vision. qui a présenté lors du CES, donc le salon de l'électronique de Las Vegas en début d'année. Alors on disait la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais plus, on a parlé du CES où il n'y avait pas grand-chose. Mm-hmm. Certes, il n'y a pas eu grand-chose.
Mais en fait, quand même,
mais il y a eu quelque chose, oui, parce que des fois je retrouve un petit peu des articles comme ça. Que
c'est vrai qu'on a vu, on avait été très dur sur le CES de cette année.
Non, mais on a la raison d'être très dur sur le CES de cette année, parce que franchement, c'était quand même un peu pauvrouné. Et donc, ils ont présenté un nouveau concept de lentille. Et c'est assez intéressant parce que ce sont des lentilles souples qui sont presque magiques, oui, parce qu'il faut toujours utiliser des mots extraordinaires quand on est au CES. Si tu dis que c'est des, lentilles d'une banalité affligeante, personne ne va s'intéresser. Donc là, tu dis que c'est des lentilles extraordinaires. Il y a des circuits électroniques extensibles et souples qui sont intégrés aux lentilles dans un genre d'hydrogel, ce qui justement ça ne te gêne pas l'œil, bien sûr. Donc tout ça, c'est supportable, nous dit-on. Et donc l'idée, c'est de pouvoir afficher les contenus d'un mobile en réalité augmentée devant ton œil. C'est-à-dire que tu vas recevoir en clair des notifications.
Dans les yeux. Alors ça, par contre, je suis pas sûre d'avoir envie.
Mais tu n'auras pas le choix. C'est l'avenir qu'on est en train de te donner là. Ça va te permettre de t'orienter en plus.
Non, moi je n'en ai pas besoin. Non, ne dis pas ça.
C'est vraiment
pas
exceptionnel. Alors, ça te permet de t'orienter, ça te permet de visualiser des données. Ça permettra également ces lentilles de pouvoir corriger la presbytie. Comment ? Eh bien, en s'adaptant à l'environnement, comme avec des verres progressifs. Et donc, ça pourrait aussi améliorer la myopie. C'est en tout cas ce que l'on nous dit. Alors c'est bien sûr un concept qui est quand même assez compliqué et c'est assez inédit également. Enfin, en tout cas, on a l'impression qu'on est en train d'ouvrir une porte assez intéressante dans ce domaine-là. Ils attendent d'obtenir l'approbation de la fameuse administration américaine, la Food and Drug Administration.
La fameuse.
Ils attendent toujours aux États-Unis d'avoir la certification pour permettre de pouvoir commercialiser en fait ce genre de lentilles. Ça devrait être possible cette année et donc ça pourrait permettre justement d'avoir des lentilles qui vont pouvoir maintenant vous afficher des notifications sur votre œil on est dans d'une, comment dire, dans la réalité augmentée qui va se faire directement maintenant. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Tu auras pu utiliser des objets compliqués pour pouvoir accéder à cette réalité augmentée. Là, tu l'as directement sur ta lentille. C'est-à-dire que bientôt, on va te le greffer. C'est la prochaine étape.
C'est toujours la, j'allais dire, c'est ce qu'on voit dans les films, etc. Mais c'est toujours la crainte de l'étape suivante. Oui.
Moi, je pense toujours, je suis peut-être assez ancien ou j'ai peut-être, comment dire, une culture cinématographique limitée, mais je pense toujours à Terminator, en fait.
Ah oui, oui.
Quand on est à un moment, on voit ce que Terminator voit. Et en fait, il y a plein de données qui apparaissent. Tu sais,
ah oui, c'est ça, exactement.
Et là, c'est exactement ça qui va se passer. Terminator, c'est les années 80 quand même. Toi, ils étaient en avance. Mais ça, on aura ça grâce à ces lentilles, mais souples et qui ne font pas mal à tes yeux, nous dit-on.
Ouais.
Et du coup, ça te permettra d'avoir une notification très importante qui va t'obliger à acheter quelque chose de totalement indispensable pour ta vie. En fait, on est en
l'hyperconnexion, hein. Oui, on est en train de...
C'est toujours les mêmes sujets qu'on aborde dans ces émissions. C'est-à-dire que d'un point de vue technique, c'est extraordinaire.
Oui, ça c'est sûr, tout à fait.
C'est formidable. Après, d'un point de vue éthique, au sens large... Bah, les questions se posent. En fait, non, les questions ne se posent pas parce qu'en fait, on te commercialise ça, on te présente ça au CES de Las Vegas, on te dit c'est formidable. La grande administration américaine va dire mais oui,
valide,
vous pouvez commercialiser,
oui,
on pourra valider en disant mais oui, vous avez raison, c'est possible. Parce que bien sûr, derrière, on a bien vu dans cet article qu'ils disent mais attention, ça va aussi améliorer la presbytie ou la myopie, tu vois, on va essayer de trouver des applications thérapeutiques intéressantes. Et puis comme ça, tu vas avoir une notification parce que X a liké ta publication sur Facebook, par exemple. C'est tellement indispensable de le savoir maintenant directement dans tes yeux. Je trouve...
J'imagine le désastre.
Je pense pas que ce soit un désastre. Moi, j'ai envie de voir ça. Si elles existent, j'aimerais bien les essayer. Je voudrais voir ce que ça donne.
D'avoir
des informations directement.
Il y a la curiosité. Moi, j'avoue que, par contre, je trouve qu'on est déjà maintenant ultra sollicité. On a entre guillemets, plus temps de respiration qui est nécessaire, déjà, par tous les canaux. Et là, ça ira jusque dans les yeux. Et après, on est déjà tous rattachés presque à notre oreillette en permanence, c'est-à-dire les écouteurs en fait, du téléphone.
Mais oui.
Et là, ça va être les yeux en plus, et puis bah, au bout d'un moment, il n'y aura plus de sens libre, en fait.
Je veux voir jusqu'où on peut aller. C'est ça que je veux voir jusqu'où on va. Ça va être efficace. Mm-hmm. Parce que je ne sais pas, en fait, si ça va être efficace. Il y a un moment où on va bloquer, on va saturer.
Oui.
De façon consciente ou pas. Et j'attends de voir à quel moment ça ne va plus être efficace.
Mais je pense que tu seras surpris du jusqu'où ça peut aller, je pense.
Je pense que malheureusement, je risque d'être surpris d'une façon désagréable.
Oui, j'ai l'impression.
Mais ça avance, et on se dit à un moment, non. À un moment, ça va s'arrêter, parce qu'on va dire, ça ne sert à rien. Eh bien, non.
Oui, tout à fait. Mais j'ai envie de dire, alors affaire à suivre, on verra. Et puis, si jamais il y a la possibilité de tester, du coup, ces lentilles, eh bien, en tout cas, je m'arrangerai pour que tu sois le premier sur la liste. Tu nous feras un retour dans l'émission.
J'essaierai.
Alors, justement, moi, comme ça me permet d'enchaîner parfaitement, puisqu'on va rester au niveau des yeux, et plus précisément de la rétine, puisque j'ai trouvé, du coup, là, un article intéressant qui nous dit qu'en fait, la rétine peut prédire le risque de mort précoce. En tout cas, qu'on pourrait réussir grâce à l'observation de la rétine chez l'être humain. De quoi s'agit-il ? Alors pareil, c'est pas un film de science-fiction, parce qu'on resterait dans le thème. Non, non, non. En fait, le vieillissement, qui évidemment est un phénomène inévitable dans la vie de tout individu sur Terre, eh bien, il ne se déroule pas au même rythme en fonction des individus du même âge. Il s'agit d'une étude qui a été publiée récemment dans le British Medical Journal, donc très sérieux, hein, et qui suggère que l'âge rétinien, et parce que maintenant on aura l'âge humain, l'âge rétinien, l'âge... ses orientations, mais donc voilà, l'âge rétinien, il serait déterminant pour obtenir une estimation de l'âge biologique réel. En fait, grâce à un puissant algorithme, une analyse de la rétine ou de l'écart d'âge rétinien suffirait à déterminer si on risque de mourir prématurément ou non. Et c'est là qu'on rentre un peu dans la science-fiction. Puisque, du coup, qu'est-ce qu'on... Enfin, j'allais dire, je trouve ça assez, moi, anxiogène pour le coup de savoir à l'avance si on va mourir jeune ou pas. Alors,
on se base ?
C'est ça. Alors, comment
est-ce savoir. Je suis impatient comme toi.
Oui.
Ça fait 10 ans que tu m'en parles.
Le vieillissement, donc, comme on l'a dit, c'est un processus qui est long, qui est complexe et qui est irréversible. J'aime beaucoup. Tu sais, ça te met le niveau de j'allais dire, un petit peu la peur là, qu'on sent. Et évidemment, en fonction du temps, eh bien, ça va s'étendre à travers l'ensemble du corps. La rétine, qui est une fine membrane qui tapisse l'œil et qui reçoit les informations lumineuses, elle est particulièrement sensible justement aux dommages qui sont causés par le vieillissement. Un vieillissement biologique différent et indépendamment du vieillissement chronologique, qui correspond aux modifications inévitables qui sont liées à l'âge, hein, contrairement au vieillissement biologique, qui peut lui inclure l'environnement et également d'autres facteurs. Alors, d'autres indicateurs de l'âge biologique, comme la neuroimagerie, l'horloge de méthylation de l'ADN et l'horloge de vieillissement du transcriptome, existent déjà. Je sais que notamment la méthylation de l'ADN, on en a déjà
oui,
parlé dans
l'émission.
Oui, on
en a déjà parlé, ce qui permet de dater, oui, effectivement. Voilà. Parce qu'il y en a qui mentent sur leur âge, donc là, on ne peut pas.
En fait. Oui, enfin bon, l'analyse reste quand même encore un peu compliquée, donc en général, on n'a pas l'info. Mais en fait, ces indicateurs, ils manquent de précision et ils peuvent être à la fois coûteux et longs à réaliser, justement, hein, c'est ce que je viens de dire. Par contre, la rétine, on peut la scanner facilement en moins de 5 minutes. Et ce qu'on a découvert, c'est que cette analyse rétinienne, elle pourrait devenir à terme un outil fiable et indolore à la disposition de tout clinicien. Donc, comme je l'ai dit un peu avant, on a bien vu que deux personnes, elles peuvent vieillir chronologiquement au même rythme, mais biologiquement, en fait, pas de la même façon. Donc le modèle en fait, d'algorithme automatique qui a été mis au point par le groupe de chercheurs en question, il a appris à prédire la durée de vie d'une personne en observant et en analysant l'état de sa rétine. Donc déjà, j'apprends qu'on n'a en effet pas tous les mêmes états de rétine et que c'est plus sensible au vieillissement. Hein. Ce groupe de chercheurs, enfin cet algorithme, pardon, il a notamment pu prédire avec précision l'âge biologique réel de près de 47 000 adultes anglais d'âge moyen et âgés. Dans une fourchette de 3, il avait 3,5 ans visiblement d'erreur. Ce résultat a été confirmé après environ 11 ans suite à l'analyse et à la numérisation de rétine de ces personnes. Donc 1871 d'entre eux étaient décédés. Oui, parce qu'en fait, après, on a attendu et on a regardé et on a vu si l'algorithme avait bien prédit ou pas. Et ceux qui avaient des rétines d'apparence âgée avaient plus de risques de faire partie de ce groupe. L'algorithme peut ainsi prédire que si la rétine d'une personne a un an de plus que son âge chronologique réel, son risque de décès, peu importe la cause, augmente de 2% en 11 ans.
D'accord.
Parallèlement, le risque de mourir d'une cause autre qu'une maladie cardiovasculaire ou d'un cancer a augmenté de 3% dans l'étude, d'où l'appellation écartage rétinien. Alors en fait, tout ce qu'expliquent les auteurs de l'étude, c'est que tout ce corpus de travaux, eh bien, il soutient l'hypothèse selon laquelle la rétine joue un rôle important dans le processus de vieillissement et est sensible aux dommages cumulés du vieillissement qui augmentent le risque de mortalité. Voilà. Donc, comme le risque et la gravité des maladies dégénératives augmentent avec l'âge, l'état de la rétine peut être une véritable mine d'informations pour déterminer la durée de vie d'un patient. Et comme la rétine est très riche en nerfs et en vaisseaux sanguins, plusieurs études antérieures ont déjà montré que ce réseau rétinien peut être un indicateur fiable pour la santé neurologique et cardiaque générale. Certaines recherches ont même démontré que le cerveau adaptait la vision selon le rythme cardiaque. Les facteurs donc vision, circulation sanguine et fonction neurologique sont ainsi étroitement liés. Mais l'étude publiée dans le journal britannique, c'est la première à présenter ce fameux écartage rétinien comme un puissant prédicteur de la mortalité globale sans tenir compte des maladies sous-jacentes. Ce que les auteurs expliquent encore, c'est que l'association significative entre l'écartage rétinien et la mortalité non cardiovasculaire non cancéreuse, ainsi que les preuves croissantes du lien entre l'œil et le cerveau, peuvent soutenir l'idée que la rétine est la fenêtre des maladies neurologiques. Il faut quand même noter que les résultats de cette étude y découlent uniquement d'observations, mais que le processus biologique qui régit cette relation reste encore inexpliqué selon les chercheurs. De plus, seulement 20 des personnes qui ont participé à l'étude sont décédées des suites de démence. Les auteurs n'ont alors pas pu établir un lien entre ce trouble cérébral spécifique et la santé rétinienne. Les chercheurs ont également souligné que les décès liés aux maladies cardiovasculaires ont largement diminué ces dernières années grâce à la progression de la médecine. Malgré ça, la santé rétinienne peut rester un indicateur important de la santé cardiovasculaire. Des études antérieures ont montré, par exemple, que des photographies de la rétine peuvent aider à prédire les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, en effet, On n'a pas encore tous les résultats, mais c'est des recherches qui finalement, j'allais dire, sont assez prometteuses et qui nous montrent en fait hein, qu'au niveau de notre rétine, eh bien, on peut avoir des prédictions sur notre état de santé, sur surtout notre fameux vieillissement là, avec l'écart d'âge rétinien, pour obtenir en fait une estimation de notre âge biologique réel.
Eh bien, ça me fait bizarre.
Après, est-ce qu'on aurait envie de savoir ?
C'est toute la question.
C'est pas sûr.
C'est toute la question, parce que ça veut pas dire déjà que c'est une science infaillible.
Non, bien
Et
sûr.
Et puis là, on parle de maladie, enfin, on parle de mort, comment dire.
Ben là, c'est surtout pour voir.
Toute la partie accidentelle.
Voilà,
aussi,
pour, exactement, exactement. C'est-à-dire, en tout cas, pour savoir, d'un point de vue du coup un peu neurologique au niveau de ces atteintes-là, ça pourrait donner une estimation. Alors évidemment, c'est pareil, tout dépend comment c'est utilisé, tout dépend des niveaux de fiabilité. Mais en tout cas, peut-être que ça contribuera à faire baisser quand même certaines pathologies, ou en tout cas avoir des vraies applications pour améliorer l'état de santé des gens.
Bien sûr, c'est tout l'intérêt justement de ces recherches, bien évidemment. On voit derrière toutes les applications qui peuvent être mises en place. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant, c'est aussi un peu la première fois qu'on aborde ce sujet-là,
ouais,
vis-à-vis de la rétine. On n'aurait pas cru, c'est le miroir de l'âme, c'est ça ?
Exactement, en fait, oui. Et qui permet d'apprendre beaucoup de choses.
Ça se confirme. Arrête de me regarder comme ça. On écoute Falula sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Graphite également à l'écoute sur www.graphite.com. graphite.net.
Et vous nous écoutez aussi bien le samedi que le mardi à 10h pour la rediffusion, bien sûr, sur Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Et il y a longtemps que je n'ai pas parlé d'espace. Vous savez que j'adore parler d'espace dans cette émission. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'actualité. C'est qu'en ce moment, on est peut-être dans un faux plat et on va avoir des informations au niveau de l'espace totalement fascinantes. Si, on en parlera la semaine prochaine ou dans 15 jours de cette planète qu'on a découverte. Pardon, en forme de ballon de rugby. On en a parlé, oui. On en parlait en janvier, on en parlera tout à l'heure. On en parlera, pardon, peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours, on verra. En tout cas, là, on va se projeter au mois prochain, je vais y arriver, pardon, au mois de mars, le vaisseau spatial Orion devrait décoller vers la Lune dans le cadre de la mission Artemis 1 de la NASA. On en a déjà parlé, bien évidemment. Cette mission marquera les prémices du retour de l'homme sur la Lune. On le sait, Artemis 1 permettra d'évaluer les capacités d'Orion à mener la mission et à revenir sur Terre depuis son orbite lunaire. Alors la cabine sera vide, on y trouvera seulement un mannequin pour simuler un astronaute et également une tablette tactile. Cette tablette sera animée par une version hors ligne et qui sera adaptée d'Alexa, qui est l'assistante vocale d'Amazon. Le système de communication par visio est supporté par la plateforme de téléconférence de Cisco, WebEx, bien sûr. On connaît tous ces noms-là, bien évidemment. Alors ce test en grandeur nature, c'est ça qui est quand même intéressant, permettra de s'assurer que le composant d'Alexa répondra aux objectifs des futures missions. Mais comment est-ce que le géant Amazon est parvenu à faire embarquer son assistante virtuelle à bord du vaisseau spatial, parce que c'est quand même une première et c'est ça qui est intéressant, grâce à un accord entre le constructeur de la capsule Orion et la NASA. Et c'est l'avionneur qui a décidé de lui-même de développer un assistant à commande vocale. Et pour y parvenir, il s'est donc rapproché d'Amazon, également de Cisco, et ce sont les deux sociétés qui ont financé l'intégration d'Alexa dans la mission. Ce partenariat est d'ailleurs autorisé par l'accord signé entre à la fois Lockheed, qui va pouvoir gérer un petit peu tout cela, et la NASA, bien sûr. La NASA qui bénéficie également du remboursement des moyens qu'elle a engagés pour aider à cette intégration. Tu m'étonnes, derrière, il y a évidemment énormément de questions d'argent. Et donc, du coup, la NASA essaye de trouver des financements privés, bien évidemment. Les commandes vocales devraient permettre aux astronautes d'ajuster l'éclairage de la cabine ou bien de communiquer avec leurs proches sur Terre à partir du système mis au point par Cisco, et pour le moment il n'est pas vraiment prévu d'aller beaucoup plus loin que les commandes de base. L'assistante pourra toutefois accéder aux données de télémétrie et sera capable de répondre à certaines questions concernant la vitesse de déplacement, par exemple. Alors, on est encore loin d'embarquer le HAL 9000 parano du film 2001, l'Odyssée de l'espace, bien sûr, on en est encore loin. La NASA n'a d'ailleurs pas encore approuvé l'utilisation de cette tablette sur les futures missions habitées d'Artemis. Pour le moment, aucun astronaute n'a encore testé le procédé, même au sol. Et de même, personne ne peut dire si le système de visio WebEx de Cisco sera capable de fonctionner une fois en orbite lunaire. Donc évidemment, on fait un test en grandeur nature. On ne sait pas trop ce qui va se passer dans tous les cas. Que le projet de cette tablette soit opérationnel ou bien rejeté par la NASA, il aura encore une fois donné une excellente visibilité à une marque qui n'en avait pas forcément besoin, bien évidemment. Mais en tout cas, Alexa serait donc le premier astronaute virtuel à bord d'une mission de la NASA. C'est assez fascinant, incroyable. Bien évidemment.
Oui. Oui, on suivra ça certainement. Il y aura des retombées, j'allais dire, scientifiques. Enfin, à voir. Ouais.
À voir. Et pour la petite histoire, Carole, avant d'entamer cette émission, je te parlais de cet article, je te disais Alexa, tu cites cela. Et en fait, à un moment, on a entendu parler dans le studio une voix, on ne sait pas d'où ça venait. Et en fait, il y a aussi, on a ce genre
c'était
d'appareil.
Oui, c'était c'est ça, qui nous répondait déjà et qui nous écoutait, sans qu'on le sache.
Sans qu'on le sache, nous sommes écoutés. Mais voilà, c'est intéressant, c'est anecdotique, mais techniquement, là encore, intéressant, bien évidemment, parce qu'on voit tous les débouchés qu'il peut y avoir au niveau de l'espace. On termine, Carole, cette émission avec un dernier petit article.
Oui, tout à fait, et sur ce monde fascinant du règne animal que j'affectionne tout particulièrement. Et alors, ça va nous faire voler un petit peu également, puisqu'il s'agit en fait du coléoptère Paratuposa placentis, qui justement, a un vol très mystérieux, qui a fait l'objet de plusieurs recherches, qui lui permet de battre des records de vitesse. Ça a été relayé donc par Science et Avenir dans un article là au mois de janvier, puisqu'on se demande justement comment ce minuscule coléoptère, j'invite nos auditeurs à aller voir donc à quoi ressemble Paratuposa placentis. En effet, il est vraiment.
C'est quoi, c'est un genre
petit.
De moucheron en clair?
Oui, alors après, il est beaucoup plus impressionnant sur ses représentations, mais c'est vrai que quand on connaît sa taille, c'est-à-dire la moitié d'un millimètre, Oui, il est
c'est
tout,
vraiment
petit,
tout petit.
Mais il ressemble pas du tout, j'allais dire morphologiquement, à un moucheron. C'est beaucoup plus complexe parce que surtout il a des ailes assez incroyables. Et en fait, il bat des records de vitesse. Donc c'est une équipe russe qui a travaillé là-dessus. Et c'est un des insectes d'ailleurs les plus petits au monde. Donc, il est asiatique, il est capable de voler à des vitesses atteintes seulement par des insectes trois fois plus gros. Et évidemment, on a essayé de percer les secrets de ses prodigieuses aptitudes au vol. Ça a été analysé donc par l'équipe d'Alexei Polilov de l'université Lomonosov à Moscou, en Russie. Et c'est quand même un article qui a fait là les pages du dernier numéro de Nature. Voilà, donc une référence dans le domaine scientifique. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que normalement, plus un insecte est volumineux, plus il est capable de voler vite. Il y a quand même une relation entre les deux.
D'accord.
Mais dans ce cas, la puissance de cet insecte, elle surpasse la friction de l'air. Alors, les petits insectes, en fait, sont normalement freinés par les frottements. Mais il y a quand même certaines espèces qui échappent à cette règle, dont notre Paratuposa placentis. Cela fait plusieurs années que l'équipe russe s'intéresse à cet insecte, allant à chaque publication toujours un peu plus loin dans la compréhension de sa biomécanique. Cette fois-ci, les chercheurs ont combiné des reconstructions 3D de la structure et du mouvement des ailes. Et c'est ça, en fait, qui est assez impressionnant à voir représenté. Donc, sur Internet, j'invite vraiment les auditeurs à aller voir pour visualiser, en fait, et l'amplitude et la reconstitution du mouvement des ailes. Donc une première explication de la stupéfiante vitesse atteinte par ce tout petit insecte, eh bien, elle réside dans la forme de ses ailes. Elles ne sont pas membraneuses, mais en fait hérissées de poils, les rendant plus légères et nécessitant moins de puissance musculaire. Mais l'astuce suprême de l'insecte, eh bien, elle n'a pu être dévoilée qu'en filmant l'animal en pleine action. Là, les chercheurs ont été surpris de découvrir en fait que ce mini coléoptère battait ses ailes d'une façon très particulière et qui n'avait jamais été observé avant. Son cycle se décompose en effet de deux puissants demi-battements qui lui permettent de prendre de l'altitude, suivi de deux battements plus faibles qui produisent une force descendante. Alors, ce cycle complexe, il présente l'intérêt d'accroître artificiellement l'amplitude du battement des ailes, permettant ainsi donc au coléoptère de battre des records de vitesse. En cas d'oscillation excessive, l'animal actionne alors ses élytres qui fonctionnent à la manière de frein. Les auteurs sont persuadés que d'autres mini-insectes ont adopté ces mêmes stratégies pour voler. Il ne reste plus qu'à les dénicher. Donc là, on a quand même observé des choses qu'on n'avait pas encore vues chez les insectes. Et assez incroyable. Hein,
et on devine bien évidemment l'étape suivante qui va être pouvoir appliquer de façon industrielle.
C'est ça, peut-être ça, s'inspirer, faire du biomimétisme, exactement.
Je ne peux pas concevoir qu'on ne le fasse pas. Mm-mm. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que c'est assez nouveau également. Donc on trouvera bien sûr des applications, je n'en doute pas. Je ne vois pas où précisément, je réfléchissais, peut-être
en
au
effet,
niveau des drones, peut-être, je
ne sais
pas.
Peut-être en effet pour le vol de certains objets, oui, à voir.
À voir, effectivement, mais ça c'est intéressant, évidemment, le biomimétisme, c'est un sujet qu'on évoque de temps en temps dans cette émission, pas régulièrement, mais ça arrive.
Parce qu'il y a des inventions qui en effet s'en inspirent de plus en plus.
C'est un vrai sujet, il faut qu'on fasse une thématique spéciale biomimétisme. Peut-être pas la semaine prochaine, je ne sais pas si tu es là la semaine prochaine.
Eh bien, je ne suis pas certaine, mais par contre, je serai là dans 2 semaines, ça c'est sûr.
Oh, tu reviens vivement alors dans 2 semaines, ça va être formidable. Merci Carole, merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de Graphite sur le site internet en récupérant les podcasts sur graphite.net. Et bien sûr, vous nous suivez sur la bande FM 94.9, aussi bien en direct que lors de la rediffusion de cette émission, mardi matin à 10h. Merci Carole et à très bientôt
merci
sur l'antenne
Jean-Noël.
De Graphite.
À bientôt.
Bonne journée à vous sur l'antenne de Graphite. Au revoir.